cour d'éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 16 juin 1994.
puissance politique d'intervenir. L'homme est un animal politique parce que il y a en lui un devenir. S'il n'y avait pas de devenir en lui, il n'y aurait pas d'aspect politique. Et l'être. moyens qui sont nécessaires, qui s'imposent. Et puis il y a des moyens qui sont très relatifs, tout moyen relatif, nécessaire ou facultatif, qui vient s'ajouter. Et puis la fin, ou les fins. Parce que pour l'homme, il y a le point de vue, l'amour d'amitié. Mais il est conditionné. baiser sa fille n'est pas une conclusion de l'amour qu'il a pour son épouse. Non. C'est un amour distinct, qui a quelque chose de particulier, et qui naît directement. Mais l'amour qu'il a pour son épouse va permettre d'aimer plus son fils et sa fille. Oui, donc ça joue au point de vue de l'épanouissement de cet amour. Donc c'est pas du tout indifférent. Quelquefois psychologiquement, on dira, il se rattrapera par là, donc il les aimera encore plus. J'ai entendu ça. C'est pas vrai.
Et une
les autorités purement civiques? Ou y a-t-il aussi une exigence de conclure cette union conjugale devant une autorité religieuse? Alors, c'est très bien comme question. Donc, on passe de l'éthique humaine à l'éthique religieuse. Je vous ai dit qu'entre l'éthique humaine, fondamentalement humaine, fondée sur l'amour d'amitié, et l'éthique religieuse, il y a un ordre essentiel. Et toute la question est là. Il y a un ordre essentiel. Entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne, on ne peut pas dire qu'il y a un ordre essentiel. Mais la grâce est donnée gratuitement, en surabondance, et elle permet à l'éthique religieuse d'atteindre sa plénitude, sa perfection. C'est assez complexe, c'est pas commode à bien préciser ça. Et il faut tout le temps bien le faire, parce que tout le monde fait des confusions. Et, vous voyez, il faut éviter le fidéisme. Le fidéisme est condamné par l'Église. Là, je suis au point de vue chrétien. Pourquoi le fidéisme est condamné par l'Église? Vous voyez ce que c'est que le fidéisme? Le fidéisme, c'est dire que je ne peux pas connaître parfaitement l'homme sans la foi. N'oubliez jamais cet article si important de Thomas d'Aquin, de la nécessité de la foi. Saint Thomas ne dit pas du tout que la foi est nécessaire pour connaître l'homme parfaitement. Il dit la foi est nécessaire pour comprendre ma finalité surnaturelle. Je suis fait pour la vision béatifique. C'est pour ça que la foi est nécessaire. C'est très très important ça, parce qu'on a beaucoup de peine à comprendre cela. Et quand le pape, dans son encyclique, Splendor Veritatis, dit la foi des chrétiens d'aujourd'hui n'a pas la ferveur qu'elle devrait avoir. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Il y a une espèce d'affadissement de la foi. Vous voyez, on ramène la foi à l'aspect, si vous voulez, de l'humanisme intégral. Je suis croyant pour être un homme parfait. Non, je suis croyant pour être un fils de Dieu. Et en étant un fils de Dieu, je serai un homme parfait. Mais la foi n'est pas donnée premièrement pour permettre à l'homme d'être parfait. La foi est donnée premièrement pour être fils de Dieu, appelé à la béatitude. C'est tellement important, ça. C'est pour ça que le rôle de l'Église n'est pas premièrement de la justice sociale. C'est pas ça. Le rôle de l'Église, c'est la mission du Christ. Et le Christ n'est pas venu premièrement pour établir la paix en Israël. La dernière question des apôtres, juste avant l'ascension. Quand vas-tu rétablir le royaume en Israël? Quand vas-tu établir la justice sociale parfaite? Et la réponse de Jésus, c'est de partir dans le ciel. C'est une réponse adéquate. C'est extraordinaire, c'est quand même parlant ça dans les actes des apôtres. Et le Saint-Père ne cesse de rappeler, surtout le pape actuel, ne cesse de rappeler que la mission d'Église, c'est la mission du Christ. L'Église continue le mystère du Christ. Donc, il faut bien se rappeler ça, par le fait même, l'idée l'éthique fondamentalement humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne. Faut arriver petit à petit à bien distinguer ces trois niveaux. C'est les trois finalités. Finalité d'amour, d'amitié. Finalité de l'adoration et de la contemplation. Finalité de la vision béatifique. Ça, il y a trois finalités distinctes. Et à l'égard de ces trois finalités, la prudence humaine et la prudence politique est différente. Ça, c'est très important pour ne pas tomber dans le fidéisme. Oui, le fidéisme consiste à dire que la grâce seule, la foi seule, permet de connaître l'homme. Alors, on pourra dire, la foi seule permet de comprendre d'une manière ultime la finalité de l'homme. Ça, c'est, on a le droit de dire ça. Non seulement le droit, mais le devoir. Pour le chrétien. Puisque seul le chrétien peut le dire. Le philosophe peut simplement dire, si je regarde le mystère de cet homme qui s'appelle Jésus et qui est venu pour sauver les hommes, dans sa lumière, je peux dire que l'homme n'est parfaitement homme que s'il suit Jésus. Ça reste une merveilleuse hypothèse. La plus belle des hypothèses philosophiques qui existent. Je crois. Et j'ai le devoir de regarder ça. Un philosophe ne peut pas être un vrai philosophe s'il ne veut pas regarder ce qui a existé dans notre monde. Or, il a existé dans notre monde le mystère de Jésus. Alors je peux très bien dire, moi, c'est la faillite complète ce mystère. Il a terminé sa vie par un suicide. Ce qui m'a été dit. Hein. Un communiste m'a dit ça comme ça. Un petit jeune, intelligent du reste. Mais très batailleur. Votre crise, c'est celui qui se suicide. Alors vous êtes pour le suicide généralisé. Puisque vous dites qu'il est roi du monde, donc. Il fait que tout le monde doit se terminer par un suicide généralisé. Alors, il faut montrer que c'est pas ça du tout. Hein. Mais de l'extérieur, la croix est un échec. De l'extérieur. Parce que de l'extérieur, c'est pas commode de voir le lien entre la croix et la résurrection. Et c'est pour ça que la sagesse chrétienne, je peux la saisir de l'extérieur au plan philosophique, mais je ne la saisis pas de l'intérieur. Voyez, alors, suffit-il, je reprends la question au plan philosophique, suffit-il de se marier devant des autorités purement civiques, ou y a-t-il aussi une exigence de conclure cette union conjugale devant une autorité religieuse. Donc le lien entre les deux, c'est l'union entre l'éthique fondamentalement humaine et l'éthique religieuse. L'éthique fondamentalement humaine demande de s'achever dans l'éthique religieuse. Et donc, s'il y a éthique religieuse, je comprends que l'union conjugale n'est pas seulement humaine, elle fait appel à une alliance avec Dieu. La procréation où l'âme est créée par Dieu. Et l'éthique religieuse, donc l'éthique religieuse qui accepte le Créateur, reconnaît et doit reconnaître que l'âme spirituelle n'est pas créée par les parents, n'est pas communiquée par les parents, et qu'elle est créée par Dieu. Et donc, le point de vue du mariage implique une attitude religieuse de coopération avec le Créateur. Et si ça implique ça, il est normal que cette union soit pas uniquement en face des autorités civiques, mais aussi des autorités religieuses. philosophe peut-il en dire? Le philosophe part de l'amour d'amitié. Et c'est de l'amour d'amitié qu'il doit essayer de comprendre comment cet amour d'amitié implique le don des corps au niveau de la fécondité. Et que la fécondité étant reliée à l'éducation, implique la famille et réclame cette communauté qui est une communauté de responsables à l'égard de l'enfant. Puisque l'enfant naît dans un état de fragilité qui fait qu'il ne peut pas par lui-même s'éduquer. C'est toute la question de l'éducation qui fait comprendre que le don des corps et la fécondité qui suit le don des corps, qui peut suivre le don des corps, implique le point de vue de la famille. Et donc, ce don des corps point de vue de la fécondité implique cette responsabilité à l'égard de la famille. Pourquoi le don des corps est-il réservé au mariage? En ce sens-là, à cause de la fécondité. Alors on pourrait dire, vous voyez, alors c'est là, on entrerait dans toutes les discussions actuelles qui seraient intéressantes du reste à regarder de très près. Pourquoi le don des corps n'est-il pas uniquement pour l'amour d'amitié indépendamment de la fécondité? Et donc, à la place de la finalité, ce serait la joie de se retrouver, de se donner. La jouissance qui épanouit. Donc un épanouissement uniquement au point de vue humain. Toute la perspective d'un eudonisme qui finaliserait le point de vue de l'amour d'amitié conclurait cela. Mais c'est une conception de l'amour d'amitié. Est-ce que l'amour d'amitié est finalisé par un don personnel? Ou est-ce que l'amour d'amitié est finalisé par la jouissance? Si l'amour d'amitié est finalisé par la jouissance, on ne voit pas pourquoi il n'y a pas de don des corps en dehors du mariage, en dehors de la fécondité. Si au contraire, on comprend l'amour d'amitié au-delà de la jouissance et comme un don personnel, alors à ce moment-là, on doit comprendre que la personne humaine a cette capacité de la procréation, de la fécondité. Aimer l'autre dans ce qu'il a le plus lui-même, c'est respecter tout ce qu'il est. Et ne pas seulement regarder la jouissance qu'on peut avoir à se retrouver. Aimer l'autre dans tout ce qu'il est, c'est donc aimer sa capacité de fécondité qui est liée à l'amour, qui est liée au don. Et je n'ai pas le droit de séparer ce qui est uni, naturellement. Vous voyez, c'est un point très délicat, là encore, distinction et non séparation. Je distingue l'amour et la fécondité, c'est sûr. Ce n'est pas la même chose. Mais je ne les sépare pas. Vous voyez, c'est très très curieux que toutes ces erreurs ont un fondement du côté de la connaissance spirituelle et philosophique. Comme l'encyclique du Saint-Père. Si j'essaie de comprendre l'encyclique du Saint-Père, je vois que c'est tout le temps lutter contre faire de toute distinction une séparation. vous savez bien, c'est la distinction entre Thomas d'Aquin et Don Scott. Don Scott fait de la distinction et une séparation. Si je distingue, je sépare. Non. La distinction se fait au niveau de l'intelligence et au niveau de l'intelligibilité. La séparation se fait au niveau du jugement d'existence. Donc c'est confondre appréhension et jugement. Radicalement. Ça se ramène à ça. Donc c'est subtil, hein. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas si commode que ça à bien voir. Mais c'est capital. Et on voit qu'au fond, si on ne va pas jusque-là, on ne peut pas répondre. On dira, c'est les conventions. Mais non, c'est pas les conventions. C'est le point de vue de la nature humaine. Je ne peux pas séparer ce que tu as eu dit. Ça, c'est un jugement de sagesse. Au plan religieux, je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. Mais au point de vue purement humain, je vois que l'amour d'amitié implique un don personnel. Et c'est la personne que j'aime. Et je ne peux pas, dans la personne, nier ce qui est le lien qui existe entre l'amour et la fécondité. Et donc je ne peux pas le séparer. Et si je le sépare pratiquement, j'essaie de comprendre pourquoi cette séparation existe. Et je vois que cette séparation existe parce que je veux récupérer. Vous voyez, donc il y a un accaparement. Parce que faire de l'amour d'amitié, faire la finalité de l'amour d'amitié, la jouissance, c'est un accaparement. C'est accaparer. C'est prendre pour soi. Tandis qu'au contraire, dans l'amour d'amitié, il y a l'offrande de soi, il y a l'aspect extatique, le dépassement, et le don de soi-même. Et le don de soi-même implique justement le point de vue de l'âme et du corps, le don total. Alors il y a un amour d'amitié au plan spirituel qui n'est pas l'amour de l'époux et de l'épouse, qui n'implique pas le don des corps, qui implique